Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi, je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Là, tu dis vrai. La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui que l'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis moi qui te parle. » À ce moment-là, les disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu ?» ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas « Encore 4 mois et ce sera la moisson ?» Et moi je vous dis « Levez les yeux et regardez, les champs sont déjà, et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. » Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte le fruit pour la vie éternelle. Si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs, vous venez d'accomplir un effort, un gros effort, de tendre l'oreille avec un évangile qui fut long, avec notre frère diacre qui est un peu petit, donc la voix qui ne porte pas beaucoup, donc il faut tendre l'oreille. Mais c'est un bel effort. Vous savez, le Concile Vatican II a demandé cette réforme de la liturgie et en insistant sur la participation active des fidèles. Eh bien, c'est avant tout cela, la participation active des fidèles. C'est tendre l'oreille. Tendre l'oreille. Et ça demande un effort de tendre l'oreille. Et surtout quand on vient de lire un évangile long comme ça, on se rend compte que c'est un vrai effort, être tendu, à l'écoute. Et mes amis, ça rejoint le cœur de la liturgie de ce troisième dimanche du carême, avec les scrutins. Les scrutins qui sont proposés tous les ans, lorsque les communautés ont la grâce de porter, d'accueillir et de soutenir des hommes et des femmes qui ont entendu l'appel de Jésus dans leur cœur à recevoir le baptême, à faire partie du peuple de Dieu, à devenir enfant de Dieu. Et donc, ils arrivent après leur démarche auprès de la paroisse, après l'inscription de cette démarche, l'entrée en catéchuménat, l'appel décisif, premier dimanche de carême, nous arrivons au scrutin. Et ça nous concerne tous. Pourquoi ? Eh bien, parce que la démarche de carême est une démarche de renouvellement des promesses de notre baptême à nous. Et à la veillée pascale, nous entourerons ces hommes et ces femmes et nous mettrons avec eux spirituellement sous cette fontaine du baptême pour être renouvelés avec eux en cette veillée pascale. Et donc le scrutin qu'ils vont vivre bientôt, ça nous concerne aussi. Alors, le scrutin, c'est quoi ? Le scrutin, ça vient du verbe scruter. Scruter, c'est regarder avec minutie. C'est regarder ce qu'il y a au fond. Scruter. Alors, c'est qui scrute ? Et qu'est-ce qui scrute, les enfants, à votre avis ? Qui scrute et qu'est-ce qui scrute ? C'est Dieu qui scrute. Dieu qui scrute. Et qu'est-ce qui scrute Dieu ? À votre avis ? Qu'est-ce qui scrute Dieu ? Il scrute. C'est ça. Le cœur de chacun de nous, et tout spécialement de ces catéchumènes. C'est Dieu qui scrute, et qu'est-ce qu'il scrute ? Il scrute le cœur de l'homme. Alors, est-ce que Dieu ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur de l'homme ? Si, il le sait très bien. Mais si il demande à scruter notre cœur, c'est pas pour savoir ce qu'il y a dans notre cœur, il le sait très bien. Mais c'est nous qui ne le savons pas. Et nous l'invitons, et ces catéchumènes vont spécialement, mais nous-mêmes tous ici, nous invitons Dieu à scruter notre cœur pour y révéler ce qui est caché à nos yeux. Et là, vous comprenez que ce que Dieu veut nous révéler de ce qui est caché dans notre cœur, c'est quelque chose qui est en lien avec le baptême. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la Samaritaine nous aide à voir ce que c'est. Il y a dans ce long évangile, il y a un basculement, il y a vraiment, tac, il y a un moment, tout peut basculer. Soit la Samaritaine et Jésus vont se séparer méchamment, soit alors il va y avoir la transformation. Et est-ce que vous savez à quel moment il y a ce point de bascule ? Est-ce que vous savez à quel moment il y a ce point de bascule ? C'est quand Jésus va dire à cette femme, « Va, appelle ton mari et reviens. » Alors là, mes amis, Jésus, avec ses mots, il met le doigt là où ça fait mal. Il met le doigt sur une plaie, sur une blessure qu'il y a justement dans le cœur de cette femme. Et là, c'est le point de bascule. Soit ça passe, soit ça casse. Et si ça casse, elle se casse. Va, appelle ton mari et reviens. Et là, la femme, ça va passer. Ça va passer. Elle va dire, je n'ai pas de mari. Jésus reprit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. C'est le scrutin. Cette femme est scrutée par Dieu. Dieu savait très bien, Jésus savait, il est Dieu, hein, donc Jésus savait très bien que cette femme en était à son 6e mari. Il le savait déjà. Mais il l'a scrutée. Pourquoi ? Pour que cette femme fasse la vérité en son cœur, qu'elle arrête de se mentir à elle-même, qu'elle arrête de se cacher derrière des solutions de bonheur qui n'en sont pas, des fausses solutions de bonheur. Alors pourquoi Jésus fait ça maintenant ? Pourquoi s'il fait ça ? Il prend un risque. Il prend le risque que la relation s'arrête. Il prend le risque, hein. Et dans le cheminement des catéchumènes, il ne faut pas oublier, il y a des moments où ça passe ou ça casse. Il faut accepter qu'il y a des gens qui ne vont pas jusqu'au bout. Il faut accepter. Et ce n'est pas une perte, hein. C'est ils ne sont pas encore prêts. Mais alors pourquoi Jésus prend ce risque ? Parce que c'est en réponse à ce que cette femme vient de lui demander. Qu'est-ce qu'elle lui a demandé ? La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » La femme lui fait une demande et Jésus va répondre à cette demande. Alors pourquoi Jésus répond ça ? C'est l'histoire d'une femme qui m'a dit il n'y a pas longtemps, dans ma paroisse de la Garnache, elle a dit, « Ah, mon père, en 1961, moi, j'étais une adolescente, pour ceux qui s'en rappellent. 1961, il y a eu un hiver très dur, cet hiver-là. Très, très dur. Je ne sais pas si vous en rappelez. Et cette femme, dans les marais, disait, « J'étais de corvée d'eau. Je devais aller au puits prendre l'eau. » Eh bien, c'était gelé. Le puits était gelé. Et pour aller puiser de l'eau, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ? Il fallait que je casse la glace. Briser la glace pour aller puiser l'eau. Et bien, c'est ce que fait Jésus. Pour que cette femme, pour répondre à la demande de cette femme, donne-moi de cette eau, l'eau vive. Eh bien, il fallait d'abord briser la glace dans le puits de son cœur. Briser la glace pour que cette eau puisse jaillir. En fait, le puits est l'eau vive. C'est notre cœur, mes amis. Il est là. On n'a pas à aller en Samarie, d'accord ? Ça va vous économiser un billet d'avion. Vous n'avez pas besoin d'aller à Sicard, vous n'avez pas besoin d'aller à Jérusalem, même pas besoin d'aller à Rome, même pas besoin d'aller à Lourdes. Le puits, il est là, dans ton cœur. Et c'est de là que l'eau vive jaillit. Mais dans ce puits, il y a des couches de glace. Il est glacé, ce puits. Et oui, on a besoin de se laisser scruter pour que la glace soit brisée et que l'eau vive puisse jaillir. Et c'est important de le faire, mes amis, chacun important. Et on ne peut pas le faire, en fin de compte, on ne peut pas le faire tout seul. On a besoin de Jésus qui fasse la vérité en notre cœur. C'est très, très important. Combien de chrétiens ne viennent plus à l'église parce qu'ils ont eu des des accidents dans leur vie, peut-être des foyers brisés, un mariage brisé, des personnes divorcées, remariées, et qui ne viennent plus à l'église en disant « Mais j'ai demandé à Dieu de sauver mon mariage, il ne l'a pas fait, ma vie est brisée, Dieu n'a pas répondu. » Ou alors une personne qui a un accident, qui perd une personne proche, qui perd un parent, un grand-parent, qui perd un mari, qui perd une femme, qui perd peut-être même un enfant, et qui va dire « Mais où est Dieu ?» Et qui va quitter l'Église à cause de ça. Mais n'est-ce pas que c'est peut-être que leur cœur est bouché ? N'est-ce pas qu'il y a peut-être cette couche ou ces cailloux qui sont dans leur cœur et qui empêchent l'eau vive de jaillir et d'étancher leur soif justement à ces moments-là d'épreuves dans leur vie. Ce n'est pas Dieu qui n'écoute pas la prière du pauvre, mais c'est peut-être que son puits est bouché. Parce que nous n'acceptons pas de laisser Jésus scruter notre cœur pour briser la glace. Alors, nous allons prier maintenant pour ces catéchumènes avec une intercession, un exorcisme et puis une imposition des mains. Et tout cela, c'est la liturgie de l'Église, mes amis. C'est Jésus qui agit à travers son Église. Laissons-le aussi agir dans nos cœurs. Amen.